Le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
Alors, on va tenter de rentrer en contact avec coach Desmuller. Est-il en ligne avec nous, coach?
Bonjour, Phil.
Bonjour, bonjour, coach. Toujours au boulot, hein. Pas de confinement pour le coach Desmuller.
Toujours au boulot, toujours en place pour honorer nos engagements vis-à-vis des clients.
Voilà. Alors, on va revenir sur le dossier que nous avons entamé la semaine dernière concernant l'impôt sur le revenu. Hein. On va parler de l'aide fiscale liée à la famille. Alors, quelle est la différence entre déduction, réduction, crédit d'impôt sur le revenu?
Oui, il faut savoir que ces mots-là, ces termes-là, souvent les gens tergiversent, mélangent un peu. Mais il est simple et utile de maîtriser un peu chacun de ces termes. Donc, il faut savoir qu'une déduction est une somme qui sera enlevée soit de votre revenu catégoriel, c'est-à-dire ça viendrait en moins de vos traitements et salaires, ou soit ça viendra en moins de vos revenus globaux, à savoir, par exemple, la déduction d'une pension alimentaire que vous versez à vos enfants. Par contre, une réduction, c'est une somme qui sera à soustraire du montant de votre impôt. Par exemple, quand vous faites des dons, vous avez une réduction liée à ce don-là, donc ça viendra en moins de votre impôt. Un crédit d'impôt, ça suit le même chemin qu'une réduction d'impôt. Par contre, la grande différence, c'est que si vous n'êtes pas imposable, vous pouvez recevoir en retour un chèque des impôts en remboursement de ce crédit d'impôt. Voilà la nuance qu'il y a entre réduction et crédit d'impôt. C'est-à-dire, réduction, si vous n'êtes pas imposable, il n'y a pas de retour en chèque. Par contre, quand il y a un crédit d'impôt, vous pouvez récupérer votre crédit sous forme de virement ou de chèque de la part de l'État.
Mmh. Voilà. Alors moi j'aimerais revenir un peu sur la réduction, hein, une somme soustraite du montant de l'impôt, par exemple la réduction d'impôt pour les dons à des organismes d'intérêt général, pour venir par exemple en ce qui concerne l'église ou la mosquée, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, lorsqu'on apporte ces dîmes ou ces offrandes aux églises, est-ce que cela peut être déduit des impôts justement si l'Église est bien évidemment déclarée?
Oui, si l'Église a bien déclaré, a bien fait ses démarches auprès de la préfecture, parce qu'il faut savoir que les églises, normalement, sont sous forme d'associations cultuelles, d'accord? Donc ils doivent s'enregistrer auprès de la préfecture. Et aussi, ils peuvent faire la démarche pour bénéficier au fait de réduction, tout ce qui est réduction, crédit d'impôt à pouvoir accorder aux membres de l'Église. Il y a une démarche à faire, il y a un dossier à remplir. À partir de là, vous pouvez demander, quand vous faites des dons à l'Église, demander une attestation fiscale qui sera votre justif par rapport à votre déclaration d'impôt.
D'accord.
Voilà, donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment très important. Souvent, les membres d'Église ou certains pratiquants au niveau des mosquées ne maîtrisent pas cela. Il faut savoir que vous pouvez donner à Dieu, en retour, vous pouvez bénéficier d'un crédit.
D'une réduction, voilà.
Exactement.
Voilà. Voilà. Alors, est-il préférable d'appliquer une déduction forfaitaire de 10% hein, sur les traitements et salaires ou appliquer les frais réels?
Oui, j'ai voulu vraiment aborder ce point-là parce que souvent, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas cette situation-là. Souvent, on le voit sur notre feuille d'impôt. On voit qu'on a gagné, par exemple, 10 000 euros et on voit le revenu imposable qui passe à 9 000 euros. Il faut savoir que le mécanisme est simple. Pourquoi on enlève 10% de la somme? C'est pour tenir compte des différents frais que nous engageons pour pouvoir réaliser notre activité professionnelle. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a cette réduction-là de 10%. Si, par contre, par rapport à votre situation personnelle, individuelle, vous engagez plus de frais, les frais peuvent dépasser les 10% de vos revenus, ben là, je vous incite, en fait, à faire une déclaration au réel. C'est-à-dire, c'est, il faut additionner toutes vos factures d'essence, éventuellement les repas, si vous avez l'obligation d'avoir des tenues de travail, l'assurance, vous pouvez additionner toutes ces charges-là, d'accord, et vous le mettrez en moins de votre revenu annuel. Donc c'est un calcul à faire, à savoir est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'appliquer une base de 10% forfaitaire ou simplement de prendre les charges réelles qui me permettent de réaliser mon activité professionnelle et d'appliquer en déduction de mes revenus.
Alors, coach, j'aimerais savoir, est-ce que les conditions de déduction sont réservées essentiellement aux salariés? Est-ce que les entrepreneurs peuvent également y bénéficier?
Du tout. C'est vraiment une déduction qui est exclusive pour les salariés. Voilà, c'est vraiment pour les salariés. Ça s'applique aux salariés. Et j'incite vraiment les salariés à faire ce calcul-là, à savoir quelle est la solution la plus avantageuse. Il faut savoir aussi que si, par exemple, on vous rembourse des frais kilométriques, vous n'allez pas mettre des frais kilométriques en frais réels. Donc, ça dépendra de votre situation. Si vous avez des tickets restaurant, il faudra tenir compte que si vous voulez déduire vos repas, il faudra ajouter en plus vos tickets restaurant sur vos revenus. Ouais, donc, il faudra vraiment faire attention et éventuellement vous approcher d'un conseil ou carrément voir avec les impôts pour qu'ils puissent vérifier que tout est OK. Donc il faut savoir que vous avez l'obligation de conserver pendant 3 ans les justificatifs de ces différents frais parce que vous pouvez être contrôlé sur 3 ans. Voilà.
D'accord. Alors quelles sont les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôts pour les frais de scolarité des enfants par exemple?
Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu sous condition lorsque votre enfant à charge poursuit des études secondaires, à savoir au collège, lycée ou études supérieures.
D'accord.
Les enfants qui sont concernés, votre enfant ouvre droit à la réduction d'impôt s'il est à votre charge. Ça, c'est vraiment un point primordial. Par exemple, quand vous êtes divorcé, si l'enfant est gardé par sa mère ou l'enfant est gardé par le père, c'est soit l'autre personne, soit c'est le père ou soit c'est la mère.
D'accord.
Par contre, si c'est une garde alternée, vous pourrez bénéficier de l'aide, mais divisée par deux. Voilà, donc ça veut dire qu'admettons, si c'est 100 euros, c'est 50 euros pour la mère, 50 euros pour le père. D'accord.
Mais si on en charge justement un neveu et nièce également?
Si vous êtes en charge, il faut qu'il y ait normalement, pour ma part, quelque chose d'officiel. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose d'officiel, qu'on vous a... Admettons que vous avez adopté ces enfants-là, sont vraiment officiellement reconnus au sein de votre foyer, que ce n'est pas simplement le neveu est venu s'installer à la maison, qui ne fait pas partie de votre foyer fiscal. Donc il faut absolument qu'il y ait quand même quelque chose d'officiel pour qu'il puisse rentrer... dans votre caution familiale et consort. Vous voyez, parce que des fois, le neveu peut venir parce qu'il aime bien être chez tonton Phil. Or, c'est parti du caution familial de ses parents. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà.
Alors, quels sont les montants? Voilà, parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs au plus haut point. Quels sont les montants pour un collégien, un lycéen et un universitaire, les montants de la réduction?
Voilà, il faut savoir que vous pouvez bénéficier d'une réduction pour un collégien à hauteur de 61 euros, d'accord, pour le collégien. Pour le lycéen, c'est 153 euros. Et pour les enfants qui sont en enseignement supérieur, c'est 183 euros. Et comme je viens d'insister tout à l'heure, quand il y a une garde alternée, il faut absolument diviser ce montant-là par deux.
Alors, pouvons-nous bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dépenses suivantes, petit bricolage, l'assistance informatique et travaux de jardinage? Est-ce qu'on peut bénéficier de cela, coach Demuller?
Oui, très bonne question, parce que vous savez que souvent les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on peut faire par rapport à la maison, surtout qu'on crée quand même de l'emploi pour les... les personnes qui peuvent être en difficulté. Oui, effectivement, les dépenses payées relatives à des travaux de petit bricolage, à l'assistance informatique, à Internet à domicile et des travaux de jardinage doivent être respectivement plafonnées à 500 euros, par exemple, quand vous faites intervenir une personne pour le petit bricolage. C'est le petit bricolage, c'est maximum 2 heures, hein. C'est-à-dire que quand c'est largement au-dessus, ben c'est carrément une société qui intervient. On n'est plus dans les mêmes conditions. C'est pour ça que c'est plafonné à 500 euros. D'accord? Et pour l'assistante informatique, c'est 3000 euros. Et pour les travaux de jardinage, vous pouvez bénéficier d'une réduction jusqu'à 5000 euros.
Jusqu'à 5000 euros. Wow.
Jusqu'à 5000 euros. Parce que souvent, vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait intervenir un peu le jardinier au black, pas déclaré. Au final, si vous faites le calcul, il peut vous revenir plus cher. Or, l'inconvénient majeur, c'est quoi ? C'est que vous devez avancer l'argent la première année auprès de ce jardinier-là, et votre réduction d'impôt intervient une année plus tard. Mais depuis la mise en place du prélèvement à la source, l'État avance quasiment entre 50 et 60% du montant que vous allez engendrer sur l'année 2020. Il vous l'avance déjà, au fait. Donc c'est pour ça que j'incite les gens, s'ils peuvent le faire, et même c'est vraiment pour ma part une obligation, ben de déclarer, même les personnes qui font les ménages chez vous, qui travaillent chez vous, il est important de les déclarer. Souvent on pense que ça revient moins cher à ne pas les déclarer. Or, c'est carrément le contraire, parce que vous bénéficiez d'une réduction minimum de 50% des frais engagés. Il y a même la CAF qui vous aide dans ce sens-là pour les gardes d'enfants, en fait. Et souvent, les gens se disent « Ah, ben tiens, ben, je vais payer 10 euros au black, il n'y a pas d'histoire. » Or, en cas de problème au sein de votre foyer, que cette personne a un accident, vous serez malheureusement
exposé
à la justice. Exactement. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner, et si vous pouvez déclarer ces personnes que ces personnes-là même puissent bénéficier de leur retraite plus tard, premièrement, et deuxièmement être couvert au niveau de sécurité sociale, c'est toujours une bonne chose, et pour vous, ça ne reviendra pas plus cher.
Voilà, coach Demuller, je vous propose de marquer une pause, hein, ne bougez surtout pas, vous restez avec nous, on parle de l'impôt sur le revenu, hein, la suite du dossier que nous avons entamé la semaine dernière. Ne bougez surtout pas, on revient juste après.
matinale sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, deuxième rendez-vous de la semaine, la suite. Nous sommes avec Coach Demuller comme tout les mardis et on parle de l'impôt sur le revenu, un dossier que nous avons entamé la semaine dernière. Rebonjour Coach.
Rebonjour Phil.
Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier d'un crédit d'impôt, hein? C'est la suite de notre conversation de tout à l'heure.
Tout à fait, parce que là, c'est le crédit d'impôt qui concerne les dons. Donc, pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu quand vous faites un don, ou si vous voulez verser une cotisation à la plupart des associations ou organismes d'intérêt général, cette réduction dépend notamment de la somme versée. D'accord ? Il faut savoir que vous pouvez verser jusqu'à 20% maximum de revenus imposables. Et si vous êtes au-delà, ne vous inquiétez pas, cette somme-là sera reportée sur les 5 années futures pour pouvoir bénéficier de l'aide. D'accord ? Donc, les dons qui permettent au fait de bénéficier d'un crédit d'impôt, il faut absolument que ça soit fait auprès d'un organisme qui est à but non lucratif, avec un objet social et une gestion absolument désintéressée et qui ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous faites des dons auprès de Emmaüs, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, voilà. Donc, c'est des organismes pour lesquels vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt.
D'accord. Alors, pouvez-vous nous citer quelques organismes et associations? Vous avez déjà cité Emmaüs, là?
Oui, tout à fait. Emmaüs, la Croix-Rouge, c'est surtout œuvres et organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial et culturel. D'accord. Les œuvres organismes d'intérêt général participant à la valorisation du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques. Au niveau des associations, toutes les associations et les fondations reconnues d'utilité publique, en fait.
Alors, c'est un vaste chantier, en tout cas. On parle aussi des organismes ayant pour activité principale l'organisation d'expositions d'art contemporain. Il faut dire que le milieu artistique aussi peut bénéficier de cela.
Oui, bien sûr. Et puis, par rapport aux églises et aux mosquées tout à l'heure, ça rentre dans le cadre des associations cultuelles ou bienfaisantes autorisées à recevoir des dons et des legs. Donc c'est pour ça qu'il faut une démarche de la part des églises ou des mosquées pour pouvoir donner la possibilité à leurs membres, aux fidèles, de bénéficier de cette réduction-là. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que souvent les églises n'en parlent pas, ni les mosquées, parce que c'est quelque chose qui pourrait aussi faire augmenter les dons. Parce que si vous savez que vous avez la possibilité de récupérer quasiment au minimum 66% de la somme que vous avez versée à une église ou à une mosquée, en termes de crédit d'impôt, je pense que les fidèles feront, pour ma part, un peu plus de dons.
Donc, est-ce que c'est pas dû au fait que certains responsables d'église n'ont peut-être pas l'information, Coach Demuller ?
Oui, éventuellement, mais je pense qu'il y a quand même une obligation comptable ici en France pour les associations, surtout pour les associations qui reçoivent plus de 152 000 euros de dons, hein. Donc ils ont vraiment l'obligation de tenir une comptabilité et surtout même qu'il y ait un commissaire aux comptes qui certifie les comptes. Donc normalement ces professionnels-là ont dû donner l'information à la fois soit à l'imam, soit aux pasteurs qui sont les garants des édifices au fait.
Alors, quel type de don, hein? Comment faire un don, justement, coach? Est-ce que, je sais pas, un fidèle qui décide d'acheter une voiture à son imam ou pour faire un petit cadeau ou, je sais pas, acheter une maison ou donner de l'argent? Comment faire un don, justement?
En fait, le don peut être réalisé sur l'une des formes suivantes, à savoir versement de somme en argent, ce qui est le plus classique, le plus habituel. Don en nature, une œuvre d'art, par exemple, vous pouvez faire don d'œuvre d'art à une église ou à une mosquée ou à une association d'intérêt général. Versement des cotisations, quand vous êtes membre d'une association, le fait que vous payez vos cotisations, vous pouvez déduire un certain pourcentage au niveau de votre impôt. Vous pouvez aussi abandonner des revenus ou des produits. Par exemple, actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, les assurances vous font deux propositions. Vu qu'on passe deux mois de confinement, c'est-à-dire que les voitures ne roulent quasiment pas. Donc, il y a au fait, des ristournes proposées par les assureurs. Donc, moi, j'ai reçu un mail. Mon assurance m'a proposé, coach, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Récupérer votre argent ou on le conserve et on va en faire don à des différentes associations, surtout des associations liées au secteur médical. Voilà. Mmh. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un abandon de revenus ou de produits ou des droits. Ça fait partie de cet exemple-là. Après, il y a aussi des frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole. Oui, parce que, par exemple, dans les associations sportives, quand les dirigeants, les parents viennent avec leur voiture, font des déplacements pour amener les enfants, quand les enfants jouent des matchs à l'extérieur, voilà, tout ça, ça fait partie aussi des dons que ces personnes-là font par rapport à leurs revenus propres pour aider l'association sportive dans son ensemble.
Voilà. Alors, quel est le pourcentage de réduction d'impôts suite aux dons? J'imagine qu'il y a un pourcentage.
Il y a un pourcentage. En fait, il faut savoir que quand vous faites un don, ça dépend si c'est un organisme d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique. La réduction d'impôts est de 66% du montant des dons. Je prends un exemple simple. Vous donnez 100 euros à une association ou à l'église, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 66 euros. Donc vous voyez, donc réellement, surtout pour les gens qui sont imposables, réellement le coût est de 34 euros pour vous. Voilà. Parce que vous avez donné 100 euros, en finalité, si vous devez payer 1000 euros à l'État au niveau de votre impôt sur le revenu là 2019, vous pourrez déduire 66 euros. Donc, quand vous maîtrisez cette information-là, normalement, c'est censé vous pousser à venir en aide aux plus démunis, à donner vraiment un peu d'argent dans ces associations-là pour qu'ils puissent distribuer, mais comme vous voyez, les repas, surtout par rapport à ces périodes-là qui sont très difficiles. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ben, si on fait un don au sein d'une association, surtout pour les gens qui sont imposables, la charge est que de 34 euros. Après, l'organisme d'aide aux personnes en difficulté, repas soins, là, vous pouvez y aller jusqu'à 75% du montant si votre don est inférieur ou égal à 546 euros. Donc, quand une personne donne 100 euros, ça lui coûte que 25 euros parce qu'elle peut déduire 75 euros sur son impôt sur le revenu. Mais au-delà de 546 euros, on redescend à 66 euros de revenu, à 66% de réduction.
Alors, coach, nous n'avons plus assez de temps, on va poursuivre. Pouvons-nous bénéficier d'un crédit d'impôt pour des frais de garde d'enfants?
Oui, tout à fait. Vous savez, vous pouvez bénéficier sous condition d'un crédit d'impôt pour les frais de garde de vos enfants ou petits-enfants à charge de moins de 6 ans, parce que des fois, quand les parents décèdent, ce sont les grands-parents qui ont la charge des enfants. Donc, il faut que l'enfant ait moins de 6 ans en cas de garde extérieure. Donc, il y a des conditions à remplir.
À remplir, oui.
Oui, parents avec enfants à charge ou grands-parents avec enfants ou des petits-enfants que votre et même votre enfant majeur qui est rattaché à votre foyer fiscal.
D'accord.
Il faut les conditions liées à l'enfant, c'est simple. L'enfant doit avoir moins de 6 ans le 1er janvier de l'année d'imposition. Pour l'imposition 2020 sur les revenus 2019, il doit être né en 2013 ou après. Voilà. Conditions liées au mode de garde. Il faut une assistante maternelle agréée, comme je disais tout à l'heure. Pas des personnes non déclarées, il faut que la personne soit déclarée.
Il faut déclarer absolument,
Déclarer absolument pour pouvoir bénéficier des réductions ou des crédits d'impôt. Un établissement d'accueil des enfants de moins de 6 ans, à savoir souvent c'est la crèche, halte garderie, garderie scolaire et centre de loisirs. Voilà, ce sont les conditions en fait pour pouvoir bénéficier de cela.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir également? Alors, pouvons-nous déduire la pension alimentaire versée aux enfants, hein, pour ceux qui payent des pensions alimentaires?
Ceux qui payent des pensions alimentaires, souvent, c'est comme vous le savez, vous avez la possibilité de que ça vienne en moins de vos revenus. Ça, ça vient déduire directement. Ce ne sont pas des crédits d'impôt, d'accord? Ce ne sont pas de réductions d'impôt, ce sont des déductions. Vous voyez la nuance qu'il y a sur les trois termes, c'est-à-dire que si vous gagnez 120 000 euros annuels et que vous donnez une pension alimentaire à hauteur de 10 000 euros, ben vous allez déduire sur vos 120 000 euros les 10 000 euros que vous avez donnés à vos enfants tout au long de l'année et vous serez imposable sur les 110 000 euros restants. Donc souvent, les gens ne tiennent pas compte de cela, mais il est bon de l'intégrer dans votre calcul d'impôt pour pouvoir minorer au maximum votre imposition.
Et si on a des enfants ou un enfant majeur, est-ce que tout cela rentre est-ce qu'on peut aussi bénéficier de tout cela?
Oui, tout à fait. L'enfant majeur, vous pouvez aussi déduire ce que vous lui versez. Vous pouvez déduire à la pension alimentaire si cet enfant-là n'est pas rattaché à votre foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu. La pension ne doit pas dépasser un certain plafond, donc je vais vous en déduire. La déduction totale ne peut pas dépasser 5 947 euros par enfant pour votre enfant majeur.
D'accord.
D'accord. Il ne faut pas que cet enfant majeur soit rattaché à votre foyer fiscal, au fait.
D'accord. Et si on est célibataire ou marié, est-ce que les conditions changent?
Non, du tout. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, il faut savoir que quand vous êtes célibataire, vous représentez une part. Quand vous versez des pensions alimentaires parce que vous avez eu un enfant ou bien vous étiez marié, vous êtes séparé, aujourd'hui vous souhaitez quand même assumer votre rôle de parent, il n'y a pas de problème, vous bénéficiez au fait des mêmes conditions.
Voilà, tout simplement. Merci, coach Demuller, pour toutes ces informations. L'impôt sur le revenu, on ferme le dossier ou il se poursuit pour la semaine prochaine?
On ferme le dossier pour l'instant. On aurait souhaité avoir nos auditeurs en ligne pour poser des
questions, mais techniquement, ça va être un peu compliqué. Mais on va quand même essayer, hein, pourquoi pas. On va les inviter au 01 55 07 58 00. Je rappelle que nous sommes en confinement, donc techniquement, on va essayer de prendre quelques auditeurs en ligne. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. On va vous garder, coach Demuller. Restez avec nous, on va s'écouter Daphné. Ah, nous avons déjà un auditeur qui va poser une question. C'est Gaza qui est déjà là. Bonjour Gaza.
Bonjour
Gaza.
Oui, bonjour, ça va?
Ça va et vous? Nous vous écoutons, Gaza.
Ok, là je suis au travail, là je suis en train de vous écouter. En fait, là je viens de recevoir mon impôt d'imposition, là, mon avis d'imposition.
Ouais.
Et en fait, chaque mois j'envoie de l'argent à ma belle famille au pays. J'envoie en Western Union, donc c'est-à-dire, chaque mois j'envoie un peu d'argent. Est-ce que je peux le déduire? Est-ce que je peux imprimer les justificatifs et les envoyer aux impôts?
Alors, on va tenter de reprendre coach Demuller, hein, s'il est avec nous. On va tenter de le prendre. Nous avons également Moussa. Restez bien à l'écoute, hein, parce que techniquement, c'est un peu compliqué vu que nous sommes en confinement. Donc, on va prendre le coach. Vous allez pouvoir poser votre question en direct, coach, okay, que nous attendons.
C'est parfait parce que j'appelle les impôts, mais ils ne répondent pas pour poser cette question. Et tous les jours, tous les matins, j'écoute Africain et Morin dans mon camion. Et j'ai dit, en plus, s'il parle de la défiscalisation, j'ai dit, parfait. Je préfère appeler l'antenne, au moins c'est carré, quoi.
Voilà. On va prendre le coach. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Niakate. Bonjour, coach. Moi, je suis chef d'entreprise. Cette année, avec mon entreprise, j'ai fait un don de 8 000 à une association. Et sur mes revenus propres, j'ai fait un don à une autre association de 3 000. Alors, comment ça se passe?
D'accord, écoutez, on enregistre vos questions. Restez bien à l'écoute, on va reprendre le coach des Muller. Vous le savez, nous sommes en confinement, donc techniquement c'est un tout petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'il est avec nous, coach des Muller ? Bonjour coach. Alors coach que nous avons perdu, mais restez bien en place, hein. Le temps de prendre coach, on va prendre un autre auditeur. Allô, allô ? Allô, bonjour ? Allô. Alors, nous allons essayer de vous garder bien au chaud. On va prendre cet auditeur qui va également poser sa question en direct. Allô, allô, bonjour. Votre numéro termine par 69. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, allez-y, nous vous écoutons.
Oui, voilà. Moi, ma question est celle-ci. J'ai déclaré mon impôt l'année dernière sur Internet. Mmh. Là, j'ai reçu l'impôt de revenus sur mon adresse email, mais j'ai oublié mon mot de passe.
Ah, d'accord.
Le problème est que je n'ai aussi déclaré d'autres impôts de mes cousins sur le même adresse email. J'ai oublié le mot de passe, donc on n'arrive pas à ouvrir les courriers.
D'accord. Ok, on va emmagasiner toutes ces questions. Est-ce qu'il est avec nous, coach ?
Oui, ici.
Alors, nous avons beaucoup de questions hein, de nos auditeurs. Je pense que vous en avez écouté quelques-unes. Alors, que pouvez-vous répondre pour cette personne qui a perdu le mot de passe, justement, pour pouvoir se connecter et qui est complètement perdu ? Normalement, il faudrait tout simplement mettre mot de passe oublié hein, pour pouvoir...
Normalement, il peut se diriger sur le site et il met mot de passe oublié. Il va recevoir un lien via son adresse mail, d'accord ? Et il faudra réactiver un nouveau mot de passe. Hein. Par rapport à ça, c'est simple. Il ne doit absolument pas paniquer. Ce n'est pas compliqué. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Chaque année, comme c'est déclaré qu'une seule fois, tout le monde ne sait plus. Mais je conseillerais à cette personne-là de créer un fichier où il va, même dans ses blocs-notes au niveau du téléphone ou même à la maison, pour mettre en lieu sur les mots de passe. Donc c'est simple. Il suffit juste de cliquer « mot de passe oublié ». Et il va avoir une information qui va arriver par rapport à votre adresse mail. J'espère que votre adresse mail fonctionne. Parce que souvent, on change d'adresse mail et l'autre, on l'arrête. Ah, là, par contre, la situation devient plus compliquée.
Voilà. Restez avec nous, coach. On va prendre M. Meïté. Ah, on essaye de se débrouiller techniquement. M. Meïté, nous vous écoutons, M. Meïté.
Oui, bonjour, Phil.
Bonjour.
Ouais, je vous appelle, c'était juste savoir, je me suis séparé de ma compagne, on a eu deux enfants, et là, j'arrive pas à avoir les enfants, c'est pas ça le problème, mais comme là, je lui veux une pension de presque 400 euros, je dois savoir si je dois les déclarer, et aussi, j'envoie aussi de l'argent à mon père, 200 euros tous les mois, et je voulais savoir si sur tout ça, il faut, c'est déductible, quoi, si je dois les, voilà.
D'accord, merci, vous pouvez raccrocher, merci. Bonne journée, on va écouter la réponse de coach Demuller hein, par rapport à cette interrogation, coach. Alors, coach, que nous allons essayer de reprendre. Bonjour, coach.
Oui, bonjour.
Alors, nous avons eu cet auditeur, justement, qui nous disait qu'il payait 400 euros hein, de pension alimentaire et qu'il envoyait 200 euros... tous les mois à son père au pays. Il est séparé de sa compagne. Est-ce que ces montants-là peuvent être déduits justement de son foyer fiscal ?
Il faut savoir que sur ces 400 euros qu'il donne au niveau de ses enfants en pension alimentaire, ça, il n'y a pas de souci. Concernant l'argent qu'on verse aux parents ou aux enfants, j'ai regardé dernièrement, je ne sais pas si la loi a changé, parce qu'avant c'était clair, on pouvait déduire aussi le montant qu'on verse aux parents sous condition qu'il envoie à son nom propre. Mmh. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la condition sine qua non. Si vous envoyez l'argent à votre père, mais vous l'envoyez au nom de la tante, de la petite sœur, ou ça ne passe pas. Maintenant, j'ai l'impression que la loi a évolué par rapport à ça. Il faudra que je me rapproche un peu, que je puisse lire les derniers textes en vigueur.
parce que j'ai l'impression qu'ils ont conditionné pour pouvoir déduire, il faut que la personne vive au sein de votre foyer, que vous pouvez déduire en fait à hauteur de 3 900 et des poussières. Donc je vais quand même revenir sur ce point-là, j'espère la semaine prochaine, on abordera vraiment ce point-là spécifiquement. J'ai pris le temps de titrer ça, mais je ne suis pas encore tombé sur le texte qui éventuellement modifierait cette possibilité de déduire l'argent donné aux parents, surtout nous qui envoyons énormément d'argent en Afrique. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Dans les années précédentes, il n'y avait pas de souci, c'était des sommes qu'on pouvait déduire. Et je vais juste m'assurer que c'est toujours le cas et que la loi n'a pas évolué. Voilà.
Alors, on va prendre une dernière question avant de clôturer. On va donner la parole à Moussa. Coach, je vais vous rappeler. On va prendre cet auditeur. Allô, Moussa, bonjour.
Oui, bonjour, Phil. Moi, j'ai une petite question à demander. Au fait, moi, je me suis séparé avec ma femme, mais notre impôt était... Les déclarations, on faisait les déclarations ensemble. Bon, maintenant, je veux savoir comment il faut faire pour séparer les déclarations maintenant.
D'accord. Vous aviez le même foyer fiscal auparavant.
Auparavant, voilà.
Voilà, et vous
2019 même.
Donc, d'accord.
Bon, je crois que les fils même a été déjà envoyé chez elle, parce que c'est son adresse. Donc, parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai rien reçu. Je voulais savoir maintenant pour pouvoir avoir les fiches d'impôts et puis séparer les impôts.
Voilà, c'est noté. En tout cas, on va reprendre coach D. Muller. Il faut savoir que nous sommes en confinement et donc on se débrouille sur le plan technique, coach.
Oui.
Alors, je ne sais pas si vous avez écouté la question de l'auditeur.
J'ai pas eu la question, en fait.
Alors, je vous répète la question, parce que je suis obligé de jongler techniquement, histoire de reprendre les questions de nos auditeurs. Alors, nous avons donc eu ce monsieur qui nous disait qu'il est séparé. Hein, qu'il est séparé de sa compagne, ils payaient les impôts, ils étaient mariés tous les deux, il reçoit plus de courriers, apparemment les courriers repartent chez sa femme, son ex-femme, et il voudrait savoir comment justement séparer cela, parce que les deux payaient les impôts en même temps, il reçoit pas de courriers, mais les courriers vont dans son ancienne maison. Alors comment faire ?
Ah, donc là, pour ma part, il faut qu'il fasse la démarche déjà, à créer son compte en ligne par rapport à son numéro fiscal. Quand vous regardez sur les déclarations d'impôts, chaque individu a son avis. Même si vous étiez marié, il y a quand même le numéro fiscal par individu, en fait. Donc il faudra qu'il crée son compte par rapport à son numéro fiscal. Et une fois qu'il aura accès à son compte fiscal, il pourra faire toutes les modifications nécessaires en ligne.
Alors, peut-on déclarer la séparation en ligne, justement, si on était marié, la modification ?
On peut déclarer cette séparation-là en ligne. Je pense que normalement, vous devrez joindre éventuellement un justif, parce que vous pourrez joindre les pièces. Comme ça faciliterait les choses et que lui puisse aussi créer son compte fiscal et se séparer définitivement les deux comptes, en fait. C'est important qu'il puisse créer son compte personnel.
Voilà. Alors, coach, restez avec nous. On va prendre encore un dernier auditeur avant de partir à Dakar, retrouver la rédaction de BBC Afrique pour tout à l'heure. On va prendre Ali Sedji. Ali Sedji, bonjour.
Oui, bonjour Phil, bonjour coach. Moi, j'ai juste une petite question.
Allez-y.
J'ai deux enfants ici avec moi. Mon épouse et moi avons deux enfants ici.
Oui.
Et chaque fin du mois... mon épouse leur verse chacun 20 reçus sur le compte de chacun. Est-ce que cela est déductible des impôts ?
D'accord. Donc, vous voulez savoir si votre femme... Qui, c'est vous qui reversez les 20 euros, c'est ça ? C'est votre femme ?
C'est ma femme.
D'accord.
Nous déclarons nos impôts ensemble.
D'accord. Vous êtes toujours ensemble ?
Toujours, depuis 25 ans.
D'accord, c'est très très bien. Merci pour la question, Ali Sedji. On va reprendre coach D. Muller s'il a décroché, je pense. Allô. Oui, coach.
Oui.
Alors, Alice Eddy nous expliquait à l'instant qu'en fait, il est marié depuis 25 ans avec sa femme. Il déclare tous les deux les impôts, mais sa femme reverse 20 euros tous les mois, je pense, dans peut-être le livret A. Est-ce que c'est déductible aussi des impôts, justement?
Non, quand on met l'argent au niveau du livret A, c'est votre épargne personnelle. Donc, c'est l'argent que vous aurez accès à un moment donné en cas de coup dur. Donc, normalement, il n'y a pas de réduction d'impôt là-dessus. C'est épargne simple. Hein. Donc,
c'est une épargne simple, voilà, qui n'est pas du tout déductible. Voilà. Et on va donc, je vous invite, auditeurs d'Africa Radio, à laisser des messages sur le répondeur, parce que j'imagine la frustration de certains d'entre vous de ne pas pouvoir passer à l'antenne, et on va essayer d'améliorer techniquement, en confinement, bien évidemment, la possibilité de vous avoir à plusieurs en direct. Laissez-nous des messages sur le répondeur au 01 55 07 58 05, précédé du 33, hein, si vous êtes sur le continent, Côte des Muller vous répondra à toutes vos questions. Merci coach, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce qu'on va revenir sur l'impôt sur le revenu, parce que ça a l'air d'être un dossier assez brûlant, les impôts, hein, ça arrive là.
Je pense qu'on pourra revenir s'il y a des questions, donc on va faire en sorte de répondre à toutes les questions des auditeurs. Il faut savoir que vous avez un mois pour déclarer les impôts, donc s'il y a énormément de questions, on pourra faire encore une émission spéciale questions des auditeurs, et on répondra chaque question en face une réponse.
Si alors, avant de partir, justement, ça démarre quand les déclarations?
Ça a déjà démarré. Normalement, chacun a dû recevoir un mail ou un courrier comme quoi le site est ouvert. Alors, à vos déclarations, mettez les choses en place et rassemblez toutes les informations nécessaires. Vérifiez bien, comme je dis la semaine dernière, votre fiche de paye de décembre avec le montant qui est reporté automatiquement. Voilà,
merci en tout cas coach Desmuller. Je rappelle donc, vous avez la possibilité de laisser vos questions sur le répondeur d'Africa Radio au 01 55 07 58 05. Toutes vos questions seront traitées et vous aurez les réponses la semaine prochaine. On diffusera bien évidemment vos questions mardi prochain. Merci coach, et on se donne rendez-vous pour le 12 mai.
Tout à fait.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée, et on va s'écouter Daphné doucement, c'est le titre.
Oh papi, Salatial on the beach. Mais comment se fait-il que moi je ne suis pas